Bienvenue sur Design Plus, le podcast francophone qui parle d'UX design, d'UI design, d'expérience et d'inspiration. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christophe Clouzot. Christophe, qui a une formation graphique au Gobelin, est aujourd'hui expert UX et il accompagne les clients de sa société vers de l'éco-conception, vers le numérique responsable. On parle souvent de Green UX, de design responsable. Ce sont des termes qui ne sont pas toujours très bien compris. Grâce à l'échange que j'ai eu avec Christophe, vous allez mieux comprendre ces termes, mais aussi savoir pourquoi il est temps qu'on oriente notre design vers une démarche plus éco-responsable. Je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Christophe. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. J'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Christophe. Son interview entière d'une durée de 1h12 est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner ? Oui, absolument ! Car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien Premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu ?
Oui, bonjour Laurent, très bien, merci.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce, dans quelle région de France tu te situes ?
Oui, alors là, je me situe actuellement depuis maintenant 9 mois dans les Vosges, du côté de Épinal. C'est une très belle région entre montagne et campagne.
D'accord.
Et j'y suis avec ma famille, là, installée dans une maison. Et on apprécie le cadre de vie.
Je me doute.
Eh bien, on est des anciens parisiens, en fait. Donc, on apprécie beaucoup le cadre de vie.
D'accord, bon, ben, c'est super. Vous avez échappé à la grisaille parisienne, c'est tant mieux.
Il y a eu énormément de neige, pour tout te dire.
D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille dans le web, on va dire, depuis 1996, donc c'est très très loin à l'échelle d'Internet. J'ai un parcours qui est plutôt issu des écoles d'art, c'est-à-dire que j'ai fait l'école Estienne sur toute la partie industrie graphique, donc on pourrait résumer en PAO aujourd'hui,
d'accord,
la partie print. Et très rapidement, donc le web est arrivé. J'ai foncé dedans, même si en parallèle, je faisais une formation Gobelin sur toute la partie animation, 3D, images de synthèse, etc. Mais à l'époque, faire de l'image de synthèse sur Internet, c'était extrêmement compliqué. pour une question de débit, d'outils, etc. Et donc finalement, j'ai un peu abandonné la 3D, on va dire, pour faire que du web, à monter des projets avec des copains, ce qu'on appelle des startups, qui ont été des start-down aussi, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais c'était notre manière à l'époque, pour nous en tout cas, de nous former, de découvrir le web et ce champ de potentiel qui était juste énormissime devant nous, puisque en 95-96, le web, ça ressemblait plus à des lignes de code qui s'échangeaient entre deux ordinateurs, sauf qu'ils étaient distants de milliers de kilomètres. Mais très rapidement, dès que les interfaces ont été plus graphiques, comme moi je viens du secteur plus design et graphique, ça m'a intéressé et j'ai vu le champ des potentiels, quoi.
D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, le sujet est design responsable ou éco-conception. D'ailleurs, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. D'abord, quel est en fait le bon terme déjà à employer ? Est-ce qu'on a entendu parler de Green UX, design responsable, éco-conception ? Quel est, d'après toi, le bon terme à employer aujourd'hui ?
Alors, il y a plein de termes, faut être honnête. Il y a plein de termes qui est souvent aujourd'hui résumé autour du Green IT. Et effectivement, je fais des conférences, des petites formations pour redonner un peu du sens à tous ces termes-là. Donc, tu as raison, il y a le Green IT, il y a l'éco-conception, il y a le numérique responsable, il y a le Green UX, il y a l'inclusion, il y a l'éthique design, il y a, qu'est-ce que je vais te dire encore, le IT for Green, il y a le Good Tech for Good, enfin voilà, ça part dans tous les sens.
D'accord.
Mais ce qui prouve bien que le sujet est là et qu'il est en train de se diversifier. Il s'est cherché depuis quelques années, mais là, il est vraiment en train d'exploser depuis 2-3 ans sans que je sache réellement pourquoi. Mais tant mieux. Donc après, pour redonner du sens à tout ça, moi, je fais souvent un grand schéma, on va dire, où le numérique responsable englobe tout, on va dire un grand cercle. Et à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle l'éco-conception. L'éco-conception numérique, je précise, parce que l'éco-conception, on en fait déjà depuis longtemps pour tout ce qui est automobile, aviation, industrie, emballage, etc. Bon, bah là, maintenant, c'est sur le secteur du numérique.
D'accord.
Et l'éco-conception part d'une norme ISO d'éco-conception, en ce qui concerne le numérique. Et ensuite, on y intègre quelques engrenages qui sont l'accessibilité, la qualité web, l'inclusion pour lutter contre la fracture numérique, les performances, etc. On y intègre un peu tout ça au service du développement durable et en tenant compte des enjeux du développement durable. Le développement durable, juste pour rappeler, c'est trois piliers, hein, c'est l'économie, le social et l'environnemental. Donc l'éco-conception, c'est ça, dès la conception d'un projet numérique. Donc quand je dis projet, c'est une application, un service, un logiciel, que sais-je. C'est dès cette partie-là, on réfléchit à quel sera l'impact environnemental, social et économique de ce qu'on va produire. Et on va essayer de le faire le plus sobre possible.
D'accord, très bien. Et donc toi, ton rôle aujourd'hui, tu te situes plus entre le numérique responsable, l'éco-conception, le Green UX, comment tu te situes aujourd'hui, dans quelle position ?
Oui, alors c'est vrai qu'au début de parcours, j'expliquais que j'étais plus du côté graphique et design, et j'ai fait pendant de nombreuses années, parce que j'ai tenu une agence interactive, donc j'ai fait pendant de nombreuses années de l'UX, voilà, j'étais plutôt sur la partie expertise UX, donc vraiment orienté expérience utilisateur.
D'accord.
Mais en parallèle, depuis quasiment 2010-2011, je m'intéressais à l'impact du numérique. Et aujourd'hui, j'ai cette double casquette, qui est à la fois la partie UX, on va dire, de par mon expérience, et cette partie éco-conception numérique responsable, effectivement, je mets encore les deux, sur ce terrain-là, puisque si tu l'as compris, numérique responsable, ça va vraiment intégrer tous les enjeux du numérique, aussi bien la fracture numérique, le côté éthique, etc. Là où l'éco-conception se cantonne plus à cette partie sobriété, green IT, en rapport avec les piliers du développement durable. Donc numérique responsable, c'est juste le cran au-dessus. Et moi aujourd'hui, vraiment, je m'intéresse aux deux, mais avec ce regard UX. Donc c'est pour ça que je parle souvent de Green UX. C'est comment on va éco-concevoir un projet, quel est le but, qu'est-ce qui est attendu par les utilisateurs, etc. Et on va réfléchir à faire les choses fonctionnelles les plus simples, les plus sobres. Est-ce qu'on a besoin de rajouter des fonctionnalités autour ? Est-ce qu'on a besoin de rajouter du contenu autour, des interactions et encore des zones de contact et des formulaires en plus, etc. où on se cantonne juste sur le cœur de service. Voilà, c'est donc dès cette conception, ce qu'on appelle le Green UX, dès cette conception, comment on imagine le service le plus simple et le plus sobre possible.
D'accord, ok, donc c'est plus clair. Et pourquoi t'es-tu tourné vers le design responsable ou l'éco-conception, ou ce que tu disais à l'instant, le Green UX?
Oui, alors ça, il y a un vrai sens à ça. C'est que dans les années, faut se projeter en arrière, donc je ne sais pas si nos auditeurs se rappelleront selon leur âge et leur connaissance du web, mais dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, voilà, on va dire ce gros bloc-là, la pensée prioritaire était qu'il fallait tout numériser pour sauver la planète. On pensait que imprimer c'était mal, et en signature de mail, on mettait souvent « n'imprimez pas ce mail ». Sauf si vraiment c'est important, sauver la planète. On avait des signatures comme ça en bas de mail. Et comme j'étais dans un groupe de communication, moi je représentais le pôle digital, mais il y avait le pôle print, vidéo, relations presse, etc. On a vu nos clients, donc des gros clients, qui venaient nous voir en nous disant « bah, cette année, notre rapport d'activité, comme on a une charte développement durable et des engagements dessus, on va arrêter de le faire en version imprimée, on va le faire que en version numérique ». C'est normal, je vais dans toujours l'état d'esprit où il fallait tout numériser. Donc j'ai vu les budgets arriver dans mon service plutôt que de rester dans la partie print. Et effectivement, on a commencé à rouler comme ça. Et très rapidement, je ne sais pas pourquoi, mais quasiment tous sont revenus vers nous au bout de 2-3 ans en disant bah, finalement, on va faire les deux versions, la version imprimée comme la version numérique. Et là, moi, ça a été un petit électrochoc pour moi parce que je me suis dit, mais finalement, l'argument. Le motif, la raison qui les poussait à passer effectivement de tout l'imprimé vers le tout numérique n'était plus bon. Ça tombait à l'eau en fait, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'imprimer et d'autres qui avaient besoin du numérique, et voilà, en fonction des besoins, quoi, et des affections, on va dire, de l'usage numérique. Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, et je me suis rendu compte que dans la partie print, même la partie vidéo, on avait des données sur l'impact de la production d'un livre ou même de la production d'un film. On avait ces données-là. Mais sur la partie numérique, on avait très, très peu d'infos. Donc là, on est dans les années 2010-2011. Existe simplement le site Greenaki, qui est plus orienté, on va dire, B2B, avec des vrais chiffres d'ingénieurs, de développeurs, de consulting. Mais pas forcément de chiffres précis grand public. Type, maintenant, des données qu'on a aujourd'hui, hein, mais type une requête Google, combien ça coûte, en termes planétaires, bien sûr, un envoi de mail, quel est l'impact, et si je mets une pièce jointe, etc., et si je sauvegarde dans le cloud. On n'est pas ces données-là, en fait. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser là, pour savoir si, effectivement, l'argument, la justification de nos clients qui tombaient à l'eau, bah, pouvoir aller creuser ça pour comprendre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable impact du numérique. Donc, la solution n'était pas green, mais plutôt grey, quoi. Plutôt grise.
D'accord, ok. Et toi, tu t'es tourné vers l'éco-conception depuis quand, à peu près?
Eh bien, depuis 2011, en fait. J'ai commencé mes premières conférences en 2011 auprès d'un public, en plus de concepteurs numériques. C'était durant l'événement Paris Web, un événement annuel, surtout les concepteurs du web.
D'accord.
Et j'ai commencé à en parler rapidement, et en fait, on est venu me voir à la fin de ma conférence en disant bah, effectivement, j'avais pas conscience de ça, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Comment j'agis? Et j'avais pas, moi, de solution à apporter. Le sujet était tout neuf pour moi, et on va dire pour l'époque aussi, à part quelques données que je pouvais informer sur le côté Green IT, mais pour la partie des développeurs. En revanche, côté grand public, j'avais pas d'informations. Et c'est là où je leur ai dit, bah, alors, on va chercher l'information. Je vais pas le faire tout seul. Si vous êtes intéressés, on monte un webzine collaboratif. Et c'est parti comme ça. Voilà. On a commencé à centraliser les données quand on les trouvait, à les recouper et à dire, oui, le numérique a un impact, le smartphone en a un, etc.
D'accord. Et dans cette conférence, tu as eu beaucoup de retours intéressants ou de gens qui se sont posé la question autre que qu'est-ce que je peux faire, mais moi ça m'intéresse, venez nous rencontrer dans notre société, ou comment on peut avancer, etc.
Oui, oui, oui. Sauf que le public en face de moi est un public de producteurs numériques, de concepteurs d'Internet, de web, de sujets numériques. Donc, voilà, faut être honnête, hein, j'avais pas de solution réelle, très concrète, en disant, bah, la charte à suivre, c'est ça, la méthode, c'est ça, va sur tel site, tu trouveras les informations, etc. On manquait un peu de données là-dessus et de recul.
D'accord.
Et ça, c'était juste 2010-2011. Là, maintenant, 2021, on a un recul de 10 ans, on a de la data, on a des acteurs dessus, acteurs qui ont accumulé de la data et qui se mettent à la transmettre, à communiquer dessus, pour dire, bah, voilà l'impact d'un service de visioconférence, voilà l'impact de la consultation de streaming sur Internet, etc. Chacun y va de son propre, de sa propre analyse et finalement de ses propres bonnes pratiques qu'il se met à pousser. On a des livres qui commencent à surgir, on a aussi les États qui bougent, puisque la France, l'Europe, etc. ont pris conscience de ce sujet. Donc voilà, ça a bougé depuis. Mais effectivement, en 2011, on n'avait pas beaucoup d'informations à part se dire, eh ben, on va aller la chercher, et puis dès qu'on en a, on la publie.
D'accord. Et ce webzine que t'as mis en place, il existe encore aujourd'hui ?
Alors, le webzine n'existe plus, non, parce que je l'ai revendu, en fait, avec ma société.
D'accord.
Et le repreneur ne l'a pas conservé.
D'accord. Ah, c'est dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir un organe indépendant, en fait, qui regroupe plusieurs, je sais pas, plusieurs sources. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah oui, oui, carrément, carrément.
D'accord.
Oui, mais maintenant, bon, je sais qu'il y a d'autres médias qui se mettent à en parler, notamment les médias mainstream. Donc, c'est plus trop un souci, c'est pas grave.
D'accord, ok. Et la France, tu disais qu'elle communiquait, ou l'Europe, c'est avec quel organe qui communique, et qu'est-ce qu'il donne comme type d'information ?
Alors en France, tu as la DINUM qui a pris le sujet, donc la direction du numérique, interministérielle du numérique. Tu as aussi l'ARCEP qui fait très attention à ça. Tu as l'ADEME, donc l'agence de communication, on va dire, du ministère de la transition et de l'écologie. Tu as le ministère de la transition et de l'écologie, forcément, qui prend la parole dessus. Tu as aussi le gouvernement, qui a publié il y a 3 semaines, je crois, une feuille de route pour dire qu'il fallait développer cette partie numérique responsable, éco-conception, mais dès l'école, dès l'éducation, pour avoir un usage plus modéré, plus sobre et surtout plus responsable du numérique. Et puis d'un point de vue gouvernemental, bah, c'est tout simplement le gouvernement européen.
D'accord.
Donc ça bouge de ce côté-là.
D'accord. C'est un peu difficile quand même d'être éco-responsable à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de la pandémie, non ?
Alors oui et non. Enfin, on va dire oui de base, puisque l'usage du numérique, automatiquement, c'est de la consommation électrique sur des appareils. Donc c'est sûr que le meilleur numérique qui se veut le plus responsable possible en termes de sobriété, c'est celui qu'on va pas utiliser. C'est quand on coupe tout, qu'on ferme, plus de wifi, plus rien, etc. Là, il y a zéro consommation, c'est sûr. Mais le problème, on va dire, en tout cas l'impact en termes environnemental et social, il est plus du côté des appareils, donc de nos terminaux, que du côté des usages. Donc, même si les usages ont un impact, c'est bien la production, donc la fabrication de nos appareils, qui, dans la somme de l'impact du numérique, représente 80% et même parfois plus de l'impact. Quand tu regardes l'impact, c'est tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est les ressources qui sont utilisées, les métaux rares, c'est l'eau, c'est les déchets derrière, bien sûr.
Les transports, enfin, voilà, etc.
C'est cet impact-là de matériel, en fait. C'est le matériel qu'on possède tous.
D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est une véritable activité professionnelle ?
Oui, oui, oui. Ça l'est devenu, en effet, puisque j'ai revendu mon agence, donc et le blog, le webzine dont je te parlais, etc., en 2018, pour pouvoir un peu me consacrer à ma famille. Et donc, je t'avoue que j'ai fait un tour du monde. Vraiment sac à dos autour de la planète avec mes enfants, et ça a renforcé mes convictions là-dessus, puisque quand tu ramasses des déchets à l'autre bout de la planète, quand tu vois les usages du numérique tel que c'est fait, tu te dis oui l'homme a réellement un impact sur la planète. Certes, j'ai pris l'avion, mais bon, faut savoir que le numérique aujourd'hui a plus d'impact que l'aviation civile. On pointe souvent l'aviation en disant c'est pas bien, arrêtez de voler, voilà, n'allez pas tous les week-ends à Marrakech, ce qui est vrai. Si on peut donner un conseil, c'est vrai. Mais globalement, le numérique est déjà au-dessus et il va largement doubler. Je crois que c'est tous les 10-15 ans. Donc en 2030, typiquement, 20% de l'électricité dans le monde sera dédiée au numérique, juste pour nos appareils.
Ah oui, c'est juste hallucinant. Oui.
Et puis, 2030, c'est maintenant.
Ouais, oui, tout à fait, absolument. Et puis j'imagine que, je sais pas, il y a certains constructeurs de smartphones qui se sont mis l'idée dans la tête de que chacun ait son smartphone demain. Donc c'est des idées complètement folles, quoi. Et au niveau consommation, et puis avec toutes les histoires qu'il y a autour de la 5G, etc., ça va être hallucinant, quoi.
Oui, parce que qui dit 5G dit débit plus élevé, donc facilité d'accès au contenu partout, à tout moment. Enfin, c'est encore en test, hein, c'est pas encore prouvé d'ailleurs. Il y a des tests en ce moment qui sont en train de voir si effectivement la 5G est mieux que la 3G ou 4G. Donc ça, c'est encore en test sur la région parisienne. Mais en théorie, oui, on aura encore plus de débit, plus de possibilités. Donc ça veut surtout dire que derrière, on va renouveler nos matériels pour qu'ils soient compatibles 5G. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, comme l'impact, il est côté fabrication du matériel, si on renouvelle le matériel, bah, l'impact du numérique sera conséquent.
Ouais, et puis il y a aussi la consommation qui va être plus importante aussi, j'imagine, puisqu'on aura accès à des... peut-être à des nouveaux services qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, je sais pas, du développement, au lieu d'avoir je sais pas un ordinateur connecté au Wi-Fi, on pourra en avoir 5 ou 6 dans une famille, voilà, des choses comme ça, quoi.
Alors c'est vrai que déjà les chiffres aujourd'hui, c'est que par foyer en moyenne en France, hein, je précise, on n'est pas loin de 9 à 10 appareils. Faites le calcul, mais effectivement, quand je dis appareil, ça peut être aussi un ordinateur plus un deuxième écran. C'est déjà deux appareils. Donc, on est facile à 9-10 par foyer. Donc, pourquoi pas plus que ça, sachant qu'il y a les objets connectés qui arrivent en masse.
Absolument.
C'est par milliards qu'ils arrivent en masse. Et puis derrière, quand on donne dans les prospectives, tout ce qui est blockchain et intelligence artificielle, ça va aussi énormément consommer.
Non, oui, tout à fait, oui, oui, absolument, je suis absolument d'accord.
La voiture connectée, etc., enfin, la 5G est faite pour ça, hein, pour que les voitures puissent dialoguer entre eux et avoir un petit peu plus d'autonomie. Enfin, je parle de voiture autonome, pas forcément de l'autonomie.
et c'est vrai qu'on peut se poser la question jusqu'à où, en fait, on va aller chercher des ressources de matière pour tout ce développement, quoi. Et jusqu'à quel moment la Terre peut donner des ressources, parce qu'à un moment donné il y aura plus de ressources, quoi, j'imagine. Je sais pas ce
que c'est. Le même problème, c'est que soit on va au bout de ça, c'est-à-dire qu'il y a plus de ressources et on y est déjà, il y a déjà des ressources qui se raréfient à vitesse grand V, soit on prend un autre virage, et c'est plutôt ce parti pris de tout ce qui est éco-conception et sobriété que moi je défends.
D'accord.
Je suis pas le seul, hein, bien sûr, mais effectivement, je me dis, on a intérêt à prendre le virage avant d'épuiser toutes les ressources, quoi. Et quand bien même on va épuiser toutes les ressources, il faudra de toute manière imaginer des moyens beaucoup plus sobres, beaucoup plus low-tech, pour pouvoir continuer si on veut avoir des services numériques.
Christophe, est-ce que tu peux nous dire comment tu interviens auprès de quels acteurs, s'il te plaît, dans ton activité professionnelle ?
Oui, bien, avec plaisir. Donc, maintenant, j'ai intégré il y a 3-4 mois la société Temesis. Temesis, c'est une société qui a été créée dans les années 2000 et qui était à la base orientée expertise en accessibilité numérique. Donc en fait c'est une équipe d'experts, hein, qui accompagnait aussi l'État à la mise en place du RG2A, donc le référentiel général d'accessibilité.
D'accord.
À la base pour l'administration et maintenant pour les services aussi privés.
D'accord.
Mais très vite ils ont évolué vers la partie qualité, comment faire les choses de manière plus qualitative sur Internet, sur le web en général, Et puis sur la partie aussi privacy, donc le respect des données personnelles, typiquement avec le RGPD, etc. Donc moi j'interviens maintenant pour les accompagner et développer la branche d'éco-conception et de numérique responsable. L'éco-conception, comme je te l'ai dit en préambule, hein, c'est vraiment un engrenage de plus qui va se servir justement de l'accessibilité, des bonnes pratiques en matière de qualité, des performances, du respect des données personnelles, de l'inclusion numérique, etc. quoi. Donc je vais utiliser tout ça pour accompagner nos clients, donc soit sur des audits de projets existants, soit pour intervenir dès l'amont, en accompagnement hein, ou en formation, sur tout ce qui est Green UX, et ensuite derrière une démarche d'éco-conception.
En écoutant la suite de cette interview, Christophe va plus détailler son travail sur l'éco-conception et le Green UX. Il vous dira aussi comment chacun peut être responsable dans son design. Et en conclusion, il partagera avec vous ses erreurs et il parlera également de ses réussites dont il est fier. Donc pour écouter la suite de cette interview passionnante avec Christophe et vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. À bientôt sur Design Plus, salut!
Design plus.